Après cela, Jésus parcourait la Galilée. En effet, il ne voulait pas parcourir la Judée parce que les Juifs cherchaient à le tuer. Or, la fête juive des tentes était proche. Ses frères lui dirent, « Pars d'ici et va-t'en en Judée pour que tes disciples aussi voient les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret s'il cherche à se mettre en évidence. Si tu fais ces choses, manifeste-toi au monde. » En effet, même ses frères ne mettaient pas leur foi en lui. Jésus leur dit, « Mon temps n'est pas encore venu. Votre temps à vous est toujours là. Le monde ne peut pas vous détester. Moi, il me déteste, parce que je lui rends le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Montez-vous à la fête. Moi, je ne monte pas à cette fête, parce que mon temps n'est pas encore accompli. » Après avoir dit cela, lui, il demeura en Galilée. Mais quand ses frères furent montés à la fête, alors il y monta lui aussi, non pas manifestement, mais comme en secret. Les Juifs le cherchaient pendant la fête et disaient, « Où est-il celui-là ? » Il y avait dans les foules beaucoup de murmures à son sujet. Les uns disaient, « C'est un homme de bien. » D'autres disaient, « Au contraire, il égare la foule. » Personne, toutefois, ne parlait ouvertement de lui, par crainte des Juifs. On était déjà au milieu de la fête quand Jésus monta au temple. Là, il enseignait. Les Juifs, étonnés, se demandaient, « Comment connaît-il les écrits, lui qui n'a pas étudié ?» Jésus leur répondit, « Mon enseignement n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il saura si cet enseignement vient de Dieu ou si c'est moi qui parle de ma propre initiative. Celui qui parle de sa propre initiative cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé est vrai, et il n'y a pas d'injustice en lui. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi ? Pourtant, aucun de vous ne met la loi en pratique. Pourquoi cherchez-vous à me tuer ?» La foule répondit, « Tu as un démon, qui cherche à te tuer ?» Jésus leur répondit, « J'ai fait une seule œuvre et vous en êtes tous étonnés. Moïse vous a donné la circoncision, non qu'elle vienne de Moïse puisqu'elle vient des pères. Et vous circoncisez un homme pendant le sabbat. Si un homme reçoit la circoncision pendant le sabbat, pour que la loi de Moïse ne soit pas annulée, pourquoi vous irritez-vous contre moi, qui ai rendu la santé à un homme tout entier pendant le sabbat ? Ne jugez pas selon l'apparence, que votre jugement soit juste. »
Souvent, je me dis que j'aurais aimé côtoyer Jésus pendant son ministère sur Terre. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette réflexion. Et peut-être particulièrement dans les moments où ma foi est plus tiède, je me dis que si Jésus était là, devant moi, et si je l'entendais enseigner, si je le voyais faire des miracles, je serais brûlant de zèle, 24 heures sur 24, pour le restant de ma vie. Est-ce que c'est si sûr ? On a vu la semaine dernière que bon nombre de personnes qui ont assisté de visu à l'enseignement de Jésus, à son ministère, se sont ensuite détournées de lui, notamment parce que son enseignement était trop dur à entendre. Et dans le texte de ce soir, on va assister à nouveau à différentes réactions à Jésus, différentes réactions à sa personne, à son enseignement et à ses miracles. Et ces réactions peuvent ressembler aux réactions de nos contemporains ou bien à nos réactions à Jésus. Alors je vous invite à les examiner un petit peu dans l'ordre. D'abord, on va parler des proches, ensuite les curieux, ensuite les adversaires et en conclusion, les disciples authentiques. D'abord donc, les proches. On a vu, la dernière fois notamment, qu'en Galilée, beaucoup ont abandonné Jésus. Beaucoup ont choisi de se détourner de lui. Mais en fait, la situation est encore pire en Judée. J'ai oublié de mettre une petite carte, mais la Judée, c'est donc au sud de la Galilée. Et c'est la région où était la capitale, où la Jérusalem. Chapitre 7, verset 1. « Il ne voulait pas parcourir la Judée parce que les Juifs cherchaient à le tuer. » Voilà ce qu'écrit Jean. Quand Jean parle des Juifs dans son évangile, on voit qu'il désigne généralement les autorités juives et non pas tous les Juifs. Lui-même, d'ailleurs, est juif. Donc, il parle avant tout des autorités juives. En tout cas, Jésus donc est « wanted », si on veut, en Judée, parce que les autorités religieuses là-bas considèrent que son enseignement est dangereux. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il éloigne les foules de leur influence et de leur pratique, pour d'autres raisons aussi qu'on verra. Mais il faut reconnaître que l'opposition à Jésus n'est pas seulement le fait des autorités juives. Le début de ce chapitre nous montre de manière assez frappante que même les proches de Jésus, en l'occurrence ses frères, sont sceptiques à son égard. Le verset 2 nous dit que la fête des tentes, une grande fête religieuse juive, était proche. Et à cette occasion, un très grand nombre de personnes se déplaçaient de leurs régions diverses d'Israël pour aller donc à Jérusalem, à la capitale. Et notamment, il y avait des festivités au temple. Donc voilà le contexte dans lequel on se trouve. Et là, on assiste à une discussion étonnante entre Jésus et ses frères. Ses frères, la compréhension la plus naturelle, ce sont donc les enfants de Joseph et Marie après la conception et la naissance miraculeuse de Jésus. Voilà la lecture la plus naturelle du texte. Si vous voulez discuter de ce point à la fin du culte, il n'y a pas de problème, je suis tout à fait prêt à en parler avec vous. Ils essayent donc, les frères de Jésus essayent de le convaincre d'aller à Jérusalem pour se mettre en évidence et pour faire des miracles. C'est un peu étonnant d'ailleurs, verset 3, « Pars d'ici et va-t'en en Judée pour que tes disciples aussi voient les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret s'il cherche à se mettre en évidence. Si tu fais ces choses, manifeste-toi au monde. » Alors, ça peut presque être étonnant puisque le texte nous dit par ailleurs que ses frères n'avaient pas encore placé leur foi en Jésus. Donc, pourquoi l'encourager à se manifester au monde? Mais il semble y avoir une attitude un peu ironique de leur part. En gros, ils mettent Jésus à l'épreuve. Si vraiment tu es quelqu'un d'important, bah, fais comme les gens importants. Va à la capitale, hein. C'est un peu comme en France, hein. Si on veut se faire un nom, bah, on va à Paris. En général, pas forcément avec un grand succès, mais c'est peut-être parfois pour ça que les gens viennent à Paris. C'est un petit peu, semble-t-il, l'encouragement des frères de Jésus. Ce texte nous montre, en tout cas, que les frères de Jésus, qui l'avaient côtoyé pendant des décennies, n'avaient pas compris qui il était vraiment, ni placé leur foi en lui. Et donc, il y a sans doute un peu d'ironie dans leur attitude. Je me demande si ce soir, il y a des personnes parmi nous qui sont un peu comme les frères de Jésus. Vous êtes dans un sens proche de lui. Vous avez reçu une éducation chrétienne. Vous connaissez pas mal de choses sur son enseignement, mais vous restez quand même à l'écart. Alors, pas complètement si vous êtes là ce soir, mais peut-être que votre rapport à Jésus reste superficiel. Et peut-être que, comme les frères de Jésus, vous attendez une action de sa part qui corresponde à vos attentes. Je m'intéresserai à Jésus lorsque j'aurai vu un bénéfice dans mon quotidien. Ou bien, je m'intéresserai à Jésus lorsqu'il aura rétabli la paix dans le monde. Ou bien je m'intéresserai à Jésus plus tard, lorsque je serai peut-être un peu plus âgé, j'aurai un peu rangé ma vie, je deviendrai plus sérieux. Alors, parfois ce sont d'autres raisons, bien sûr, parfois des raisons plus complexes qui nous tiennent à part. Mais quoi qu'il en soit, il est possible de côtoyer, si on veut, Jésus toute sa vie sans le connaître vraiment. Et c'est dramatique si c'est le cas. Ceux qui ont lu le livre ou vu le film Into the Wild de... je ne sais plus d'ailleurs qui. John Krakauer, c'est l'auteur du livre. Mais ça raconte l'histoire d'un jeune homme, Christopher McCandless, qui a tout lâché, études prestigieuses, famille, amis, et il est allé marcher seul dans l'Alaska, sans provision, en cherchant chaque jour de quoi survivre et manger. Une sorte de crise existentielle, semble-t-il. Il est parti là-bas. Et l'histoire se termine mal. McCandless meurt de faim après avoir passé des semaines dans un bus abandonné, en essayant de survivre, de se nourrir, etc. Et l'histoire est d'autant plus tragique qu'il s'avère qu'à une dizaine de kilomètres au sud de ce bus où il avait trouvé refuge, se trouvait un refuge, justement, rempli de nourriture et de médicaments. Donc il y avait tout ce dont il avait besoin, à peu près 10 kilomètres au sud. Et donc lorsqu'il était dans un état physique encore correct, ce qui était le cas pour plusieurs semaines, il aurait pu faire cette marche en 3 heures à peu près. Mais il ne savait pas. Il n'avait pas de carte, semble-t-il. Il n'avait en tout cas pas une carte qui indiquait ce refuge. Il ne savait pas que sa délivrance sur le plan physique était là, si proche. De façon un peu analogue, si on veut, on peut passer sa vie à venir à l'église, même régulièrement, à côtoyer Jésus, mais sans voir qu'il est peut-être encore un inconnu pour nous. Parce que nous n'avons pas placé notre foi en lui. Nous ne lui avons pas donné notre vie. C'est frappant de voir que les frères de Jésus, qui avait vécu avec lui toutes ces années, n'avait pas encore compris qui il était vraiment. En général, si nous restons à distance de Jésus, c'est parce que nous voulons encore maîtriser nous-mêmes notre vie. Et si Jésus trouve une place, ou si nous essayons de lui faire une place, c'est sous les conditions que nous imposons nous-mêmes, très souvent. Les frères de Jésus, on le voit, ils l'abordent en cherchant à le soumettre à leur schéma. Verset 4, mais enfin personne n'agit en secret, manifeste-toi au monde. Mais Jésus ne se soumettra pas à nous. Mon temps n'est pas encore venu, verset 6. Votre temps à vous est toujours là. Dans l'évangile de Jean, Jésus parle souvent de son heure qui n'est pas encore venue. Et c'est une référence à son sacrifice sur la croix. Mais ici, il utilise un mot différent, mon temps. Et il semble parler simplement du temps auquel il ira à Jérusalem. Le temps pour cela n'est pas encore venu au moment où il a cette discussion avec ses frères. Les frères, eux, peuvent y aller quand ils veulent. Personne ne leur veut du mal. Personne ne cherche à les persécuter parce que rien dans leur vie ou leur comportement ne menace les valeurs du monde. On peut se poser la question pour nous, est-ce qu'il y a quoi que ce soit dans notre vie qui menace les valeurs du monde ? Question que je laisse ouverte. Mais je reviens à notre texte. Jésus, lui, il n'ira pas à Jérusalem pour épater les foules. Il ira lorsque le Père l'y enverra. Pour y remplir sa mission, une mission qui va culminer à la croix et puis à la résurrection. Verset 7, « Le monde ne peut pas vous détester. Moi, il me déteste parce que je lui rends le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. » Jésus ne se conforme pas au monde et par conséquent, le monde rejette Jésus. On y reviendra tout à l'heure. Pour les frères de Jésus, il se trouve que l'histoire s'est bien terminée. La suite du Nouveau Testament nous montre que après la résurrection de Jésus, plusieurs de ses frères, peut-être même tous, ont cru en lui, et deux d'entre eux, Jacques et Jude, ont même écrit un livre du Nouveau Testament, écrit une lettre qui a trouvé sa place dans le Nouveau Testament. C'est un signe d'espoir également. Et si vous côtoyez Jésus depuis votre enfance ou depuis longtemps, sans lui avoir véritablement donné votre vie, il n'est pas trop tard pour le faire. Mais passons à une deuxième réaction que nous présente le texte, les curieux. J'espère qu'il y en a ce soir, des curieux. Au verset 12, on voit que la foule de pèlerins présente pour la fête des tentes a des réactions diverses à l'enseignement de Jésus. Alors les réactions qu'on voit, ce n'est sûrement pas une liste exhaustive, mais en gros, on a deux positionnements contrastés. On a d'une part ceux qui se disent « c'est quelqu'un de bien ». La dernière fois que Jésus est venu à Jérusalem, il a guéri miraculeusement un homme qui était atteint d'une maladie grave depuis 38 ans. Et donc plusieurs se disent que si Jésus a pu accomplir un tel acte de compassion, c'est sûrement quelqu'un de bien. Mais d'autres estiment que Jésus égare la foule. Pourquoi cette accusation ? Jésus semble remettre en question l'observance stricte et pointilleuse de la loi de Moïse. Mais aussi, cette accusation vient, qu'il égare la foule vient certainement du fait que Jésus a formulé à son propos des affirmations, on l'a vu la semaine dernière, extrêmement fortes. L'affirmation qu'il est venu directement d'auprès de Dieu et que chaque être humain a un besoin vital de le connaître. Je suis le pain venu du ciel, le pain de vie, dit Jésus. J'ai les paroles, implicitement, les paroles de la vie éternelle. Si vous êtes curieux ce soir, peut-être que vous hésitez entre ces deux positionnements. D'un côté, vous avez une image positive de Jésus. Globalement, notre société a une image extrêmement réduite, mais plutôt positive de Jésus lui-même. Donc, vous réagissez plutôt bien à l'idée de Jésus. Mais de l'autre, vous êtes imprégné d'une pensée relativiste qui est complètement dominante aujourd'hui et qui dit en gros que le divin est un peu partout, ou bien nulle part, on ne sait pas trop, mais soit partout, soit nulle part, mais en tout cas pas en Jésus seul. À chacun de donner un sens à sa vie. Et donc quand Jésus se présente comme le chemin, la vérité et la vie, quand il affirme qu'il détient les clés de la vie de chacun d'entre nous, là, vous avez peut-être plus de mal, et je le comprends. Qui peut imaginer qu'un simple homme dise ce genre de choses et soit pris au sérieux ? En Corée du Nord, le dictateur Kim Jong-un, à la suite de son père et de son grand-père, a mis en place un culte de la personnalité à sa gloire. Il se fait appeler entre autres le génie des génies, ou encore le soleil levant. Alors voici un extrait d'un chant de propagande qui a été écrit pour Kim Jong-un. Il tient le destin de son peuple dans son corps. Il est l'idéal dont nous rêvions, la personne qui fleurira des fleurs de tous. En coréen, c'est sûrement mieux, mais bon. Lorsque nous lisons cela, on a envie on ne sait pas s'il faut rire ou pleurer. Alors les Nord-Coréens, je pense qu'ils pleurent malheureusement. Mais pourquoi ? Parce que le décalage entre la réalité d'un dictateur à la fois cruel et ridicule est évidente. La réalité de cet homme et ses paroles de louange comme à un dieu, le décalage est terrible. Mais lorsqu'on entend Jésus se présenter comme le chemin, la vérité et la vie, la lumière du monde, on n'a pas la même réaction. Même généralement les non-croyants n'ont pas la même réaction. On n'a pas le sentiment qu'il soit un illuminé ou un mégalomane. Le théologien Henri Blocher écrit ceci. Jésus donne l'image d'un modèle d'équilibre et d'humilité dont la paix intérieure rayonne pour nous du récit. Or, en même temps, Jésus émet sur son propre compte des prétentions exorbitantes. Aux questions « Es-tu plus grand que notre père Jacob ?» Jean 4,12. « Es-tu plus grand que notre père Abraham ?» Jean 8,53. Sa réponse implique un oui sans équivoque. Il dépasse Jean-Baptiste, décrit comme le plus grand parmi ceux qui sont nés de femmes. Matthieu 11,11. Il s'élève au-dessus du temple de Dieu lui-même. Matthieu 12,6. Mégalomanie ? Pour tout autre, on serait porté à le dire. Et pourtant, dans le cas de Jésus, ces paroles demeurent parfaitement proportionnées. Pour l'observateur non engagé, l'énigme appelle l'enquête. Le fait est qu'on n'a pas de catégorie adéquate pour Jésus. J'aime bien cette dernière phrase d'Henri Blocher, l'énigme appelle l'enquête. Si vous faites partie de ces curieux, ces observateurs non engagés, notre désir est que cette église soit un lieu où vous pourrez mener l'enquête en toute liberté, en toute sérénité. Pourquoi ne pas, par exemple, assister dès ce mercredi à la rencontre Horizon Dieu sur le thème « Cet homme nommé Jésus », thème particulièrement à propos, mercredi 19h30 dans la salle du bas, repas compris. Venez, menez l'enquête. Passons au profil suivant, les adversaires. On a déjà vu que l'élite religieuse était en grande partie opposée à Jésus. Il y a quelques exceptions, mais en grande partie. Un peu plus tôt, au chapitre 5, on voit que plusieurs, parmi ces responsables religieux, cherchaient à trouver un moyen de le supprimer. Et lorsque Jésus part enfin pour la Judée, verset 10, au moment voulu par le Père, il y va en secret, mais sa présence a dû être signalée. Et il est recherché. Verset 11, où est-il celui-là ? On sent tout le mépris qui va avec cette question, ils ne veulent même pas le nommer. Où est-il celui-là, l'autre là ? Pourtant, un jour, Jésus se révèle au grand jour et il va même enseigner dans le temple. Donc manifestement, il n'a pas peur de se montrer en public, mais comme on l'a déjà vu, il le fait au moment voulu et de la manière voulue par le Père, et non pas selon les attentes humaines. Jésus donc prend la parole dans le temple et son enseignement reflète une profonde connaissance des Écritures, de l'Ancien Testament. Et ça étonne ses auditeurs, on voit ça au verset 15, et ça étonne ses auditeurs puisque Jésus n'avait pas reçu de formation rabbinique formelle. Et face à cette réaction, Jésus répond que son enseignement, il est celui de son Père, c'est-à-dire Dieu lui-même. Autrement dit, j'ai été formé par mon Père lui-même, par Dieu lui-même. Et encore une fois, il ne va pas chercher à apaiser le débat, à relativiser ses propos. Il leur pose la question ouvertement, pourquoi cherchez-vous à me tuer ? Pour mettre les gens à l'aise dans une pièce, il n'y a pas mieux. Pourquoi cherchez-vous à me tuer ? Et là, il se met la foule à dos. Une foule qui était peut-être en partie, peut-être ça incluait certaines personnes qui disaient « c'est un homme de bien ». Mais là, ils réagissent très fort, verset 20, « Tu as un démon, qui cherche à te tuer ?» Alors c'est sans doute simplement une façon de dire « mais ça ne va pas la tête, tu es paranoïaque ». Peut-être que certains pensaient effectivement qu'il était démonisé. Mais pourtant, la suite du texte confirme que les autorités juives avaient commencé à comploter contre Jésus. C'était tout à fait juste. On l'a déjà vu quelques chapitres auparavant. Alors c'est vrai qu'au moment même là où Jésus parle, personne ne cherche dans l'immédiat à le tuer. Mais Jésus n'ignore pas ce qui se joue en coulisses et il n'ignore pas où cela va le mener. Ce qui est frappant dans cet échange, c'est que Jésus met à jour les motivations profondes de ses adversaires. Et ça, on le voit partout dans les évangiles. Alors qu'ils s'emportent contre lui, lui, il discerne déjà dans leur attitude une volonté de meurtre. Et cette volonté, elle sera confirmée quelque temps plus tard, lorsque Jésus sera arrêté et puis crucifié à Jérusalem. Jésus va au-delà des apparences pour mettre à jour les motivations profondes. Il va le faire aussi sur un tout autre sujet, dans le même texte, en parlant de la circoncision. Alors la circoncision, je vous ai épargné une diapo, mais c'est un rituel ordonné par la loi de Moïse qui devait être effectué sur les petits garçons de 8 jours. Et puis le 8e jour, il pouvait arriver que ça tombe un jour de sabbat, le jour du repos, selon la loi de Moïse. Et lorsque c'était le cas, donc il y avait un peu des discussions, qu'est-ce qu'il faut faire, mais la conclusion, le consensus, c'était qu'il fallait quand même circoncire l'enfant le 8e jour. Donc on faisait une exception au principe du sabbat, qui voulait qu'on n'accomplisse aucun travail, pour accomplir le rite de la circoncision. Pourquoi est-ce que Jésus parle de cela ici ? Parce qu'on l'avait accusé, lors de sa précédente visite à Jérusalem, de guérir un homme le jour du sabbat. Et pour bien comprendre le raisonnement de Jésus, il faut se rappeler que la circoncision, elle comportait une symbolique de purification. On marquait dans la chair le fait que l'enfant appartenait au peuple de Dieu, qu'il était mis à part du monde en quelque sorte, et il appartenait au peuple saint de Dieu. Or, regardons ce que dit Jésus au verset 23. « Si un homme reçoit la circoncision pendant le sabbat, pour que la loi de Moïse ne soit pas annulée, pourquoi vous irritez-vous contre moi qui ai rendu la santé à un homme tout entier pendant le sabbat ?» Le problème des responsables religieux du temps de Jésus, c'est qu'ils étaient très, très attachés à la forme, mais ils avaient oublié le fond. La circoncision, c'était une marque de la bénédiction de Dieu sur une toute petite partie de l'homme. Ici, Jésus manifeste la bénédiction de Dieu sur le corps tout entier d'un homme. Et dans un autre épisode raconté dans l'évangile de Matthieu, chapitre 12, verset 12, Jésus va dire ceci, « Il est permis de faire le bien le jour du sabbat. » Un peu de provocation peut-être dans cette façon de parler. On a le droit de faire le bien le jour du sabbat. Faire du bien, ce n'est pas un labeur oppressant. C'est un acte de bonté. Ça fait du bien. Ça renouvelle. Précisément, c'était ça le but du sabbat. Faire du bien, renouveler. Le repos sabbatique est un principe institué par Dieu, non pas pour écraser l'homme, mais pour son bien. Et donc, si on peut circoncire un homme le jour du sabbat, à plus forte raison, on peut le guérir. On le voit encore et encore dans les évangiles, Jésus ne s'arrête pas à la surface. Il va au cœur de la volonté de Dieu, au cœur des intentions réelles des hommes. C'est intéressant d'ailleurs que l'Ancien Testament utilise parfois l'expression « la circoncision du cœur » pour parler de la véritable transformation intérieure. Je ferme la parenthèse. Jésus va au cœur et c'est ce qui le rend si « dangereux ». Entre guillemets. Il est frappant de voir que tout au long de l'histoire, les adversaires de Jésus n'ont jamais voulu vraiment faire face à ces paroles. On a cherché à les esquiver, à les éviter, à les déformer, à les caricaturer. Et je crois que c'est vrai aujourd'hui encore. C'est très rare de voir des adversaires du christianisme vraiment faire face aux paroles de Jésus lui-même. On va plutôt parler du comportement de ses disciples, on va parler de ce qu'a écrit l'apôtre Paul, etc., ou de ce qu'on pense être des falsifications de telle ou telle partie de la Bible. Mais on va rarement, vraiment, prendre à bras le corps les paroles de Jésus. Et je pense que c'est parce qu'on n'échappe jamais à Jésus en lui faisant face. Il faut l'éviter quelque part si on veut lui échapper. Et un jour, chacun devra lui faire face. C'est ça la terrible illusion, c'est qu'on ne peut pas l'éviter pour toujours. Mais qu'arrive-t-il lorsqu'on fait enfin face à Jésus, lorsqu'on fait face à sa personne et à ses paroles ? Eh bien, j'en arrive à mon dernier point qui sera aussi la conclusion. Les disciples authentiques. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 32, on assiste à une scène mystérieuse et saisissante. Jacob, le petit-fils d'Abraham, est en route pour retrouver son frère Ésaü. Et pendant la nuit, il est attaqué par un homme avec qui il lutte toute la nuit. À la fin de la nuit, cet homme blesse Jacob à la cuisse. Il s'apprête à s'en aller, aussi mystérieusement qu'il est arrivé. Mais Jacob lui dit, à cet homme avec qui il a lutté pendant toute la nuit, il lui dit, « Je ne partirai pas avant que tu m'aies béni. » Et l'homme mystérieux va alors lui donner un nouveau nom, Israël, et le bénir. Et voici ce que Jacob va dire. « J'ai vu Dieu face à face et j'ai eu la vie sauve. J'ai vu Dieu face à face et j'ai eu la vie sauve. » Il va partir en boitant, mais ayant fait la paix avec Dieu. Il est possible d'éviter Dieu toute sa vie et d'être éternellement séparé de lui, ce qui est le pire destin possible pour un être humain. Ou bien on peut lui faire face, on peut lutter avec lui. On risque d'être blessé, mais on sera transformé. Je reviens à notre texte et je lis le verset 17. « Si quelqu'un veut faire sa volonté, la volonté de Dieu, il saura si cet enseignement vient de Dieu ou si c'est moi qui parle de ma propre initiative. » C'est un peu comme si Jésus disait « Essayez, venez, venez voir, venez et voyez. » Jésus invite ses interlocuteurs à ce pas de foi. Il les invite à placer leur confiance en lui, à reconnaître dans ses paroles les paroles de Dieu lui-même, ces paroles dont nous avons désespérément besoin. Ce que je dis là vaut aussi pour ceux qui sont déjà chrétiens, et moi compris, moi le premier. Nous savons sans doute que les paroles de Jésus sont les paroles de la vie éternelle. Nous le croyons si nous sommes chrétiens. Mais parfois, c'est comme si on préférait mettre des écouteurs pour pas trop les entendre. On préfère entendre notre petite musique plutôt que sa voix redoutable et bienveillante et pleine d'amour aussi, mais redoutable dans son amour. Sa voix, elle fait encore mal à nous qui sommes ses disciples. Elle fait mal lorsqu'elle renverse nos présupposés, lorsqu'elle va à l'encontre de nos amertumes, de nos convoitises, de notre immoralité, de notre superficialité. Et ces jours-là, on préfère un Jésus light, un Jésus qui est plutôt notre coach et notre fan, plutôt que le Seigneur lui-même. Si vraiment nous croyons que Jésus a les paroles de la vie éternelle, il est grand temps d'enlever ses écouteurs et de l'écouter à nouveau. Et si ce soir vous êtes encore à la recherche de Dieu, si vous êtes peut-être même un simple observateur, peut-être que vous êtes là pour la première fois ce soir, pourquoi ne pas faire face vous aussi aux paroles de Jésus ? C'est dangereux dans un sens, effectivement, on n'en sort pas indemne. Peut-être que vous pourriez lire l'évangile de Jean dans les semaines qui viennent. Mon espoir et ma prière, c'est que Dieu vous emmènera par cette lecture sur un chemin nouveau, un chemin à la suite de Jésus, un chemin que Jésus dit qu'il est lui-même. Et c'est vrai que ce chemin, il comporte des virages, pas mal de virages inconnus, mais la destination, elle est connue. Il s'agit de retrouver notre Créateur. Il s'agit de quitter enfin notre exil pour retrouver la maison du Père. Prions. Père, permets-nous de faire face aux paroles de Jésus, de nous laisser transformer par elles. Si certains ici n'ont pas encore pris position pour lui, pour toi, permets qu'ils ne tardent pas à le faire. Et si nous avons besoin de revenir à ces paroles alors que nous en sommes quelque peu éloignés, peut-être beaucoup éloignés, eh bien que toi-même, par la voix que nous entendons en lisant ta parole, tu nous rappelles à toi.